Amis auditeurs, auditrices, bonjour. J'ai la chance et la joie aujourd'hui d'accueillir François de Vienne, qui est président de l'Association des Amis de l'Orgue du Temple de Montpellier. François, bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Jean-Pierre Lecaudet, un organiste qu'on ne présente plus, je pense. Donc Jean-Pierre, bonjour et merci d'être là.
Bonjour.
Avec vous, nous allons aborder aujourd'hui Bach. Ce compositeur extraordinaire. Et c'est François qui va nous introduire.
Non, mais écoutez, c'est simplement pour vous rappeler, je pense que la dernière fois que je suis venu, nous en étions à peu près au quart de cette intégrale. Nous venons de passer le sixième concert. Et je dois dire qu'à notre... Vraiment, à notre grande satisfaction, le public est là. Moyenne de 200 à 300 personnes, ce qui est franchement tout à fait satisfaisant pour nous. Et ces concerts se dérouleront jusqu'en juillet prochain. Donc, les 11 concerts. Et le prochain sera donc en mars, le 28 mars exactement, autour de la Passion, mais notre ami Jean-Pierre Lecaudet va vous en parler plus précisément. Et puis, l'AOTM, après, ça c'est encore dans les projets, nous sommes en train d'y travailler. Nous aurons une saison complète qui démarrera en octobre prochain, étalée jusqu'en mars, auquel nous travaillons vraiment régulièrement, et on pourra vous annoncer des choses prochainement.
Voilà, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure. Et maintenant, c'est Jean-Pierre qui va se présenter déjà un petit peu et nous dire quelle joie il trouve à jouer du Bach et plein de choses importantes à nous pour apprendre.
Oui, alors, cette intégrale, en fait, a été initiée par mon honorable confrère et ami, Luc Antonini, qui est le professeur du conservatoire ici à Montpellier. Et lorsqu'il est venu inaugurer cet instrument, il a eu l'idée de dire il faut absolument faire une saison qui marque un peu les esprits, de manière à lancer un petit peu l'engouement pour ce nouvel instrument qui est assez exceptionnel. Vous avez pu l'entendre, et spécialement pour jouer la musique de Bach, je trouve que c'est extrêmement lisible. L'acoustique du temple, lorsqu'il y a beaucoup de monde, est très agréable. Et c'est lui qui a eu donc l'idée de faire cette intégrale. Alors il m'a demandé si j'étais partant, mais je lui ai dit bien évidemment, puisque moi j'avais célébré l'an 2000 en faisant ceci à Saint-Rémy, tout seul, donc je connaissais bien les partitions. Et c'est vrai que pour nous, l'idée, c'était de remettre un peu dans son contexte toute cette œuvre qui est exceptionnelle à plus d'un titre. Et j'aime dire en plaisantant que c'est pas de la musique religieuse, c'est de la musique liturgique. C'est-à-dire qu'en fait, 80% de ce qu'il a écrit pour l'orgue est à destination de la liturgie. Et donc, dans le culte, on avait l'habitude de jouer le prélude à l'entrée et la fugue à la sortie. Au milieu, en général, il y avait deux cantates, c'est l'évangile chanté. Et entre les deux, il y avait une heure de sermon, parce que voilà, c'était l'habitude. Et donc, cette musique a une destination très grande, très forte. Et on peut reconnaître ce message de Jean-Sébastien Bach grâce à non seulement une écriture formidable, un talent de compositeur qui laisse transpirer l'émotion, mais plus que l'émotion seule, il y a un véritable vocabulaire, une syntaxe, si je puis dire, ce qu'on appelle le figuralisme musical. Par exemple, les liens de la mort, ce sont des doubles croches qui s'entrelacent et on les reconnaît très facilement. La naissance, c'est souvent des sauts de tierces, la do, la mi, mi par exemple. Et on reconnaît cela grâce à l'Orgelbüchlein, qui est un petit recueil de 45 chorales, qui sont en fait des préludes de chorale, c'est-à-dire que l'organiste joue et remémore donc à l'assistance ce qu'il va devoir chanter à quatre voix spontanément, n'est-ce pas, à l'époque. Et donc il rappelle, il fait entendre le cantus donc dans le soprano en général, et toutes les autres voix imitent cette cellule musicale d'accompagnement. Et cette cellule, évidemment, est très forte émotionnellement. Elle fait reconnaître, évidemment, ce que les paroles du choral veulent signifier. Donc c'est le dictionnaire du figuralisme musical, c'est l'Orgelbüchlein. Et dans les cantates, on a également donc le titre des cantates, et on peut aisément reconnaître ce qu'il va faire et comment il s'y prend pour nous faire ressentir cette émotion par rapport au texte.
Vous avez dit tout à l'heure, Jean-Pierre, qu'il y avait un aspect plus liturgique que religieux. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous mettez sous ce terme-là ?
Alors, non, c'était une blague. C'est-à-dire qu'évidemment, la musique liturgique, c'est de la musique religieuse, évidemment, et plus parce que c'est sa destination, c'est effectivement de communier avec toute l'assistance. Donc, il y a une forte imprégnation de caractère liturgique, c'est en fait de faire participer donc la foule. Et du temps de Luther, il avait bien compris, hein, il avait dit « chanter, c'est prier deux fois ». Et donc, il en a composé pas mal. Et moi, ce qui me subjugue le plus, c'est que Bach, en fait, il reprend tout ce matériel. J'ai oublié de vous dire que l'Orgelbüchlein, une petite plaisanterie aussi, il l'a écrit en prison. Parce qu'il avait dit au comte de Weimar, bon, il faut un peu m'augmenter, moi j'en ai un peu marre de ces conditions-là, il faudrait faire ci, il faudrait faire là. Et le comte, il lui a dit, non, camarade, tu es mon employé, donc tu ne me parles pas sur ce ton. Il dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais. J'ai dit, quoi ? Comment ? Et il l'a mis aux arrêts de rigueur. Et donc, c'est très émouvant parce que Bach avait une plume à cinq broches et il a écrit quasiment pour, il y avait 164 chorales dans le Gesangbuch qui était en usage à l'époque, donc dans les années 1717, et il avait comme projet d'écrire un prélude de chorale pour chacun des 164. Donc manifestement ils l'ont libéré trop tôt puisqu'il n'y en avait plus, il n'y en a que 45 qui ont été terminés. Alors il y a une petite chose qui circule sur internet en ce moment, j'ai vu ça récemment. Il y a quelqu'un qui demande à tous les compositeurs, tous les gens de bonne volonté, comme on dit, de bien vouloir s'y mettre et de compléter l'Orgelbüchlein. Je ne sais pas comment on va faire parce que c'est d'un tel génie que je ne vois pas qui peut arriver à se hisser à ce niveau-là. Et donc, cette musique est à destination liturgique puisque c'est l'organiste qui donne le ton, si je puis dire, et qui va faire participer la foule en l'accompagnant par la suite.
Donc c'est une musique qui peut convenir, toucher au sens émotionnel du terme, comme vous le disiez, qu'on soit chrétien ou pas. Et qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être pour donner envie de plus et mieux écouter Bach ?
Alors, ce qui est le plus frappant, je crois, c'est que même si on n'est pas mélomane averti, l'émotion transpire. C'est-à-dire que c'est un musicien comme Mozart, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'on soit savant, ou béotien complet en musique, je trouve que le message passe naturellement. Et ça, c'est une très grande force, je trouve, parce que moi, j'adore Ravel, par exemple, c'est un de mes compositeurs préférés, et ça demande, je pense, quand même une éducation musicale bien plus grande pour apprécier Ravel que pour apprécier Mozart ou Bach. Ceci dit, c'est pareil, toute grande musique, à mon avis, c'était Wagner qui disait qu'elle commençait où s'arrêtait le pouvoir des mots. Et je pense que c'est la force de la musique en général que d'arriver à toucher n'importe qui par l'émotion directe et non pas, je me redresse à quelqu'un qui pratique le théâtre où on a quand même nécessité de comprendre les signifiants. Voilà. Et la force de la musique pour moi, c'est que le signifiant il est universel. Et ça, c'est une grande facilité. Et particulièrement chez Bach, en fait, c'est extrêmement varié. Et le concert qui vient de se passer, là, on va en entendre un petit extrait, c'était le premier, c'était le prélude en fa mineur, mais c'est absolument déchirant. Et chez Bach, c'est très rare d'avoir comme ça quelque chose qui retombe toujours dans le désespoir complet. C'est pour ça que j'ai choisi des pièces dites du carême. C'est où quand rarement Jean-Sébastien Bach redevient un humain un peu désespéré. Alors que la plupart du temps, même les choses pour les enterrements, comme le prélude en si mineur, là, qu'on verra plus tard, c'était pour la comtesse Eberhardine, C'est évidemment empreint d'une grande tristesse, mais la fugue à la fin, c'est une marée d'équinoxe qui amène évidemment dans un espoir extrêmement grand. Et même dans les Kyriés, dans la messe en si mineur, on a des choses qui sont de temps en temps très affligeantes. Pour celui qui la reçoit, c'est quand même assez impressionnant. Mais hop, toujours ça se transcende. Voilà. Et chez Bach, donc, dans l'œuvre d'orgue, on a des préludes et fugues à destination liturgique. On a des sonates en trio qui sont là de la musique purement, instrumentale. Puisqu'à l'époque, il fallait des souffleurs, donc on travaillait pas l'orgue, hein, on travaillait sur le clavecin à la pédale à la maison. Voilà. Donc, on travaillait. Et il a écrit ça pour l'éducation de son fils, Wilhelm Friedman. Et c'est une véritable leçon d'indépendance entre les pieds et les mains, puisque peut-être les auditeurs ne savent pas. Mais on a plusieurs claviers. Et donc, l'intérêt de l'orgue, c'est qu'on a plusieurs sonorités simultanées. Et on a un pédalier qui est destiné à être joué avec les pieds. Donc, ça fait au moins trois voix dans le trio. Et l'indépendance que ça nécessite est très difficile. Et Bach, dans ses sonates en trio, a donné donc des exercices à son fils aîné, Wilhelm Friedman, dont le musicologue Forkel, au début du 19e, a dit qu'il était devenu l'organiste que l'on sait en travaillant les sonates de son père. Et effectivement, nous, on comprend bien le problème. Donc, c'est très varié, voilà, il y a beaucoup de choses. Les différents registres de l'orgue donc créent des sonorités très contrastées tout au long du récital, et on a bâti donc ces concerts pour qu'il y ait à la fois donc ce message liturgique en fonction du temps liturgique, et à la fois de mettre de temps en temps, par exemple, des sonates en trio qui sont de la musique purement instrumentale, mais vous verrez que c'est toujours la même musique en fait, quelque part, même quand elle n'est que instrumentale et pas avec une destination religieuse bien définie, on comprend ce qui se passe.
Et c'est très intéressant de savoir qu'au travers de cette musique créée par Bach, il y a tout un tas d'émotions qui sont générées et chacun peut peut-être ressentir différemment, à un même moment musical, une émotion.
Alors oui, évidemment, ça dépend de la culture dont on dispose. Mais en ce qui concerne le message liturgique, c'est relativement clair. C'est-à-dire que là, j'ai joué récemment donc le 3 janvier, le prélude en ut majeur. C'est effectivement les rois mages, c'est l'épiphanie. On voit très clairement ce qui se passe. On sent l'ambulation. Et on a même la citation des chorales de l'Orgelbüchlein qui dit « Ah, le Christ descend sur terre ». Donc ça, il y a carrément la citation du premier choral de l'Orgelbüchlein dans la fugue. Et puis, il y a des accords extrêmement déchirants, où là, c'est carrément liturgique. C'est-à-dire qu'attention, si le Christ est venu sur la terre, c'est pour porter nos péchés et finir sur la croix. Eh bien ça y est dans l'œuvre. Mmh. Vous voyez, donc, c'est évidemment que si on explique un tout petit peu ce qui se passe, je pense que le public est à même de bien comprendre le message, puisque des autorités des protestantes et les organistes en premier, on l'a surnommé le cinquième évangéliste.
Ah ben voilà. Je vous invite à écouter ce prélude en fa mineur, donc quelques minutes de cette belle réalisation. BWV 534 de Jean-Sébastien Bach et interprété à l'orgue du Temple de Maguelone par Jean-Pierre Lecaudet. Nous retrouvons nos invités, François de Vienne, qui est donc président de l'Association des Amis de l'Orgue du Temple de Montpellier, près de la gare, et Jean-Pierre Lecaudet, qui est un organiste connu, je pense, dans le monde entier peut-être.
Un petit peu, voilà,
il est modeste.
Magnifique organiste.
Vous composez, Jean-Pierre, aussi ?
Alors, moi, j'ai été professeur d'écriture. Et pendant 25 ans, j'ai enseigné l'harmonie, le contrepoint, la fugue au Conservatoire d'Avignon, en plus de mes cours d'orgue. Et en plus, ils m'ont exploité gentiment. C'est mon ami et directeur Pierre Guiral. Dès qu'il y avait quelque chose à l'époque où il n'y avait pas de professeur, il dit « va voir le codé ». Donc, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie professionnelle d'enseignant. Et j'étais professeur de piano, de direction d'orchestre, voilà, d'écriture assistée par ordinateur. J'ai même fait 3 heures d'éveil pour remplacer quelqu'un. Il m'a même estorqué ça. Ça a été une grande expérience dans ma vie. Parce qu'effectivement, c'est un métier, hein, d'enseigner à des enfants de 4, 5, 6 ans. Mmh. Et ça a été très enrichissant. Et bien, on comprend bien que c'est pas pour tout le monde. Mais c'est agréable. Et j'ai composé quelques petites choses, mais je suis essentiellement interprète. Et puis, bon, en toute modestie, je suis chef d'orchestre, chef de chœur, pianiste, et concertiste, et organiste, concertiste, et ça fait beaucoup. Donc, et puis j'ai une telle admiration pour l'œuvre des autres, et notamment, en fait, si j'étais capable de produire de la musique qui soit digne de celle de Ravel, je pense que j'aurais beaucoup de plaisir à composer. Comme je doute d'avoir ce talent, enfin, je ne me suis pas essayé, donc on peut toujours espérer et rêver, mais peut-être qu'à la retraite, je vais tenter quelque chose, mais je laisse ça aux gens. Vous savez, je pense qu'un compositeur, il ne peut pas faire autrement. C'est qu'il est appelé à écrire, et quoi qu'il fasse, de toute manière, il va finir comme ça. Donc moi, je n'ai pas eu cette nécessité, donc je pense que je ne suis pas un compositeur dans l'âme. Je suis un interprète, c'est-à-dire j'adore la musique et la défendre.
Vous savez que Jean-Pierre est en plus un excellent pianiste. Vraiment, c'est extraordinaire. Et est-ce que, Jean-Pierre, tu peux nous parler peut-être du prochain concert de mars autour de la Passion, des œuvres qui sont...
Alors, les deux prochains concerts seront donc le 28 mars à 17h, le samedi toujours, qui sera donné par Luc Antonini. Et dans La Passion, nous aurons Le Grand Domineur, qui est une pièce extrêmement dramatique, les chorales Lorgenbüchlein du cycle de La Passion. Alors là, carrément, quand on lui a craché dessus, on l'a insulté et tout, je vous garantis, c'est violent. La musique de Bach est extrêmement chromatique, c'est très beau. Au Innocent Agneau de Dieu, par contre, alors là, c'est quelque chose d'extrêmement doux, de magnifique. Voilà, il y a toutes les émotions de la Passion dans ce cycle de l'Orgelbüchlein. Les trois chorales de Leipzig, le premier, c'est Au Innocent Agneau de Dieu, c'est pareil, mais traité avec beaucoup plus de majesté, avec un peu d'enfance. Phase. La troisième sonate en trio, donc ce sera un petit interlude de musique pure, qui est une chose admirable. Et puis le fameux prélude en si mineur, donc qui a été écrite pour les obsèques de la comtesse Eberhardine, je le disais tout à l'heure, qui était quelque chose d'extrêmement dramatique. Les gens qui connaissent pas bien la musique, ils pourraient croire que c'est du Brahms, hein, avec 100 ans d'avance, c'est assez impressionnant. Et cette fugue qui concluait donc l'office de l'enterrement. Alors là, par contre, c'est quelque chose d'extrêmement calme, qui est de très reposant et qui commence de manière très large. Et un premier contre-sujet qui rentre, un deuxième, puis ça finit en apothéose sur le tout-il d'instrument, c'est extrêmement impressionnant. C'est vraiment de la très très belle musique. Et pour le Pâques, donc on jouera pour l'octave de Pâques, c'est-à-dire le samedi 11 à 17h. Alors cette fois, c'est moi qui vais m'y coller. Le prélude des fugues en mi mineur, alors c'est très amusant, j'en ai fait l'analyse, si les personnes veulent aller plus profondément dans l'analyse de cette partition. J'ai un site à destination de mes élèves d'analyse, là maintenant je suis à la retraite, mais que j'ai laissé en œuvre, c'est jplecodé.com, et vous pouvez aller voir sur analyse des grandes pièces de Bach, c'est hallucinant. On a en fait les cellules qui composent le prélude et la fugue qui sont directement issues de la cantate Christ lag in Todesbanden, ce qui signifie Christ gisait dans les liens de la mort. Et là, le camarade Luther, il s'est pas fait suer, il a récupéré directement les mêmes notes que Victime Pascali Laudes. Donc il a mis un texte en allemand, Christ lag in Todesbanden, sur Victime Pascali Laudes. C'est assez marrant. Et ce prélude et fugue en mi mineur, ben évidemment, quand on connaît le Victime Pascali, quand on connaît le choral, et on ne peut pas rater que c'est le prélude de Pâques, du jour de Pâques, puisqu'on a effectivement exactement les mêmes cellules musicales. Et dans la fugue, il y a des traits de lumière de résurrection. Quoi. Tout d'un coup, il y a des gammes à fond les manettes avec des doubles croches qui traversent le clavier. C'est des traits de lumière, enfin, c'est hallucinant. Donc c'est quelque chose d'à la fois encore un peu triste, parce qu'on sort d'une semaine un peu pas sympa pour celui qui y va. Et on a quand même cet espoir de résurrection qui est magnifiquement transcrit. Et ensuite, je jouerai les chorales Lorgelbüchlein, alors du cycle de la Passion. Et là, c'est pareil. Le premier, c'est Christ gisait dans les liens de la mort. C'est donc, il y a l'imparfait, donc ça veut dire qu'il gît plus, donc il est ressuscité. Et donc, beaucoup de gens jouent ça avec beaucoup d'affliction et tout. Mais la phrase d'après, c'est il est ressuscité, alléluia. Et donc, il faut pas jouer ça doucement, au contraire. Et il y en a, comme ça, 5 ou 6. Et le dernier, c'est aujourd'hui triomphe le Fils de Dieu. Alors là, je vous garantis que ça fait du bruit. C'est magnifique. Ensuite, je jouerai la 6e sonate en trio. Donc là, c'est la dernière du cycle de Jean-Sébastien Bach, quelque chose de très très joyeux, très lumineux. Et ensuite, la partita sous O Gott, du Frommer Gott, c'est O Dieu Saint. Et c'est exactement alors c'est pas exactement Pâques, mais c'est l'atmosphère de Pâques. Et on a évidemment toutes les variations qui symbolisent chaque verset. C'est assez impressionnant. Et en fait, j'ai mis ça juste avant la Passacaille, parce que la Passacaille, c'est le résumé de la vie du Christ, traité en variation et en forme en arche. C'est-à-dire qu'on a un thème seul au pédale, auquel va répondre à la fin une fugue à 4 et 5 voix. Et ensuite, au milieu, on a les variations 1, 2 sont en corrélation avec 21 et 20, et ainsi de suite. Et je vous le donne en 1000 au milieu, on a le symbolisme de la croix, puisqu'on est en bisignum à 2 voix, et que la main droite va passer vers les basses, et que la main gauche, qui était à la basse, va passer vers l'aigu. Et donc là, on le voit sur la partition, qui est effectivement le signe de la croix. Mmh. Alors, si vous voulez aller plus loin, il y a aussi l'analyse, et vous avez tous les chorales qui symbolisent. Alors, en face, vous avez la naissance et la mort. Enfin, c'est hallucinant. Et ces variations sur la partita, qui sont effectivement entièrement reprises, la cellule, dans les variations de mémoire 12, 13, 14, si j'ai bonne mémoire, et qu'on retrouve en face. Donc, c'est pour expliquer, en fait, la Passacaille, on aura eu les chorales Lorgelbüchlein dans les concerts précédents, et on aura cette partita qui est directement reprise dans la Passacaille, qui est en fait comme les vicrotrop des cathédrales. C'était pour les gens qui savaient pas lire, il y avait l'image, c'était la bande dessinée de l'époque. Et ben là, c'est la bande dessinée mais en musique. Il faut connaître un tout petit peu les chorales, évidemment, pour en jouir parfaitement, mais comme vous les aurez entendus, normalement, vous devez les reconnaître.
Donc je rappelle ces deux dates importantes pour justement venir goûter à tout ce que Jean-Pierre vient de vous décrire, le 28 mars à 17h et le 11 avril à 17h aussi, des samedis tous les deux, au temple de la rue Maguelone. Et je vais vous donner l'orthographe exacte de son nom, puisqu'il vous a donné un site. Donc c'est jplecaudy.com et vous retrouverez les explications que Jean-Pierre nous a donné. Jean-Pierre, une question peut-être un peu indiscrète. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer de l'orgue ?
Oula, c'est très simple. J'ai commencé le piano avec une vieille bonne sœur à moitié aveugle qui m'enseignait le piano couvercle fermé. C'est-à-dire qu'elle mettait le solfège, je ne sais plus lequel, je crois que c'était dans de l'eau. Et tant qu'on ne savait pas lire, elle n'ouvrait pas le couvercle. Et je suis si redevable. Alors moi qui étais un peu travailleur et assez doué pour ça, elle a ouvert le couvercle au bout de 3 mois. Mais il y en a, c'était 6 mois ou 1 an. Mais l'avantage, c'est que quand elle a ouvert le couvercle et qu'elle m'a mis la méthode rose, j'ai déchiffré toute la méthode rose du premier coup. Ben évidemment, si on sait lire, ça va beaucoup mieux. En tant que professeur de piano, j'ai pas osé faire ça quand même. Ça, aujourd'hui, c'est difficile, mais je recommande à tous les apprentis musiciens, c'est apprenez à lire le mieux que vous pouvez et ça vous le rendra au centuple. C'est-à-dire qu'après, on a évidemment une capacité de lecture qui est immense. Et ensuite, je me suis retrouvé à Pibrac parce que j'étais un peu chétif. Là, on m'a dit, il faut aller prendre l'air de la campagne. On s'est retrouvé à Pibrac chez les frères. Et le frère qui m'a enseigné le piano par la suite, il était organiste. Donc, il me disait, quand tu sais bien une petite chose pour le piano, tu as le droit d'aller jouer sur l'orgue. Et je me suis retrouvé, grâce à lui, qui était mon professeur de mathématiques, on est sorti de vélo, enfin, Isidore, c'était un homme absolument admirable. Mmh. Et il m'a initié aussi à l'accord. Il m'a dit, tiens, regarde, comme il était déjà un peu plus âgé, il m'a dit, grimpe là-haut, parce qu'on ne pouvait pas y accéder, s'il fallait être un peu svelte. Hein. Donc il m'a dit, tiens, tu tapes sur la rasette, tu accordes. Donc voilà, et moi j'ai été victime de mon éducation chez les frères, c'est qu'on m'a dit que quand on avait des talents, il ne fallait pas les enterrer. Et comme j'étais un peu trop bien pourvu, ma vie a été une succession ininterrompue de travaux dans tous les domaines. Mais je ne m'en plains pas, parce que je me régale, donc j'accorde. Et puis après, j'étais à Foix, et donc chez mes grands-parents. Mon papa avait conçu une maison. Et l'orgue était un instrument assez particulier. Là-bas, il était mécano-électro-pneumatique. Enfin, c'était un truc, il n'y en a que deux en France. Et ça a été très marrant. C'est-à-dire que si on voulait jouer, il fallait dépanner systématiquement. Donc à l'âge de 11 ans et demi, commençait à faire les messes, et pour arriver à jouer de l'orgue, il fallait dépanner. Donc on apprend vite ce qu'il y a à l'intérieur, dans le ventre de l'instrument. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé organiste à 11 ans et demi, à faire commencer les messes à Foix, et ensuite j'allais à Pamiers faire les enterrements quand le docteur, le logis, ne pouvait pas. Je prenais mon vélo et j'allais faire les enterrements. Et grâce à moi, les enterrements à Pamiers, donc la ville natale de Gabriel Fauré, se font au grand orgue maintenant à Notre-Dame-du-Camp, et non plus sur l'harmonium, parce que la tradition, si on faisait les mariages au grand orgue, pour les enterrements, il fallait jouer de l'harmonium. Alors moi, je pestais, évidemment, j'avais 12 ans et demi, j'ai dit, moi je fais 20 bornes de vélo, là, c'est pas pour jouer sur l'harmonium. Et donc le curé m'a entendu de l'époque, il a dit, bon, d'accord, et grimpe là-haut, et donc grâce à moi, maintenant, il faut... On laisse un terme au grand orgue. Voilà, c'est comme ça qu'on devient organiste.
Merci beaucoup. Voilà. Et pour les quelques minutes qui nous restent, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce nouvel orgue inauguré en mai 2025 au temple de la rue Maguelone, donc près de la gare, et donc sur lequel vous avez déjà joué et vous allez encore jouer. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, vous qui connaissez plusieurs types d'orgues?
Alors, le cahier des charges a été relativement simple. C'est qu'évidemment, dans un temple, on aime bien jouer Bach quand même. Ça tombe sous le sens. Et donc, au facteur d'orgue, on a dit, bon, il faudrait quand même qu'on ait un orgue pour jouer Bach. Mais pas que, parce qu'effectivement, on est au 21e siècle et qu'il voulait aussi qu'on puisse jouer de la musique moderne. Du 19e aussi éventuellement. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que l'orgue est quand même de dimension modeste. Il n'y a pas énormément de jeux à cause de l'emplacement, de la tribune, des vitraux. D'ailleurs, le buffet est assez exceptionnel parce que il a été dessiné par Monsieur Bacot, qui est un architecte des bâtiments de France et qui a respecté non seulement la vision des vitraux, mais aussi un petit peu le caractère dans les couleurs. Ça fait quelque chose d'assez particulier qui s'intègre très très bien, je trouve, à l'intérieur du bâtiment. L'autre chose, c'est que cet orgue donc a été fait par Pascal Coirin, que je connais très bien puisque c'est lui qui a fait l'orgue sur lequel je suis titulaire à Saint-Rémy-de-Provence, que j'entretiens depuis 40 ans. Et tout ce que je sais en facture, c'est lui qui me l'a appris. Et donc, il m'a demandé un peu ce que j'en pensais, mais c'est Philippe Lefebvre qui a présidé à la composition de l'instrument. Et c'est assez bien fait parce que on peut jouer finalement beaucoup de choses avec pas énormément de jeux. Il y a un récit expressif qui a plusieurs avantages. Bon, il y a une voix humaine et un hautbois qui permet quand même de jouer quelques pièces romantiques et d'explorer un basson de 16, un basson de 8. Donc on a quand même une couleur un petit peu symphonique qui peut se mettre en œuvre. Tout le restant de l'orgue est quand même plutôt de type allemand, et les jeux d'anches notamment. Et c'est ça qui nous permet de jouer Bach, Buxtehude, enfin toute la littérature nordique allemande avec un rare bonheur. Voilà, c'est un instrument très, très agréable. Mm-hmm. En plus, il est doté maintenant de tous les instruments qu'on fait aujourd'hui. La plupart de mes confrères veulent absolument un combinateur électronique. Donc, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton et les registres s'actionnent tout seul. Mm-hmm. C'est un confort royal. Voilà. Sinon, mais moi j'aime bien avoir deux assistants aussi, c'est sympathique, parce qu'après on peut les inviter à boire un coup. C'est un sport d'équipe, l'orgue. Donc c'est... Et là, on peut jouer tout seul si on veut. Mm-hmm. On apprend par cœur, on se débrouille. Mais et apprendre tout bac par cœur, c'est beaucoup trop de travail. Donc moi je jouais avec les partitions, c'est Luc qui me tourne les pages, voilà. Ça se passe beaucoup mieux.
Nous arrivons au terme de cette émission. François, un grand merci et nous nous reverrons en avril, si mes souvenirs sont bons, pour continuer à vous donner des informations. Jean-Pierre, merci d'avoir pris du temps sur votre emploi du temps chargé pour venir nous faire goûter les joies d'écouter Bach. Je vous rappelle les deux concerts annoncés, 28 mars à 17h et 11 avril à 17h. Et je remercie Aurélien qui était à la régie. Au revoir.
Au revoir, merci.